parlais au moment de ma conversion et puis de la situation, la façon d'évangéliser dans les années 70. Puis finalement, on avait une façon un peu bonbon là, d'apporter l'évangile puis de dire, bon, on va, Jésus va te bénir, Jésus va améliorer ton sort, il va te faire épanouir sur le plan social, améliorer ta situation économique. Et puis, on éliminait beaucoup l'aspect négatif, les engagements et puis le sérieux de l'engagement là, de suivre Christ là, Jésus donne un exemple à un moment donné là, qu'un homme qui construit une maison doit vérifier, voir s'il a tous les moyens de construire ce qu'il veut faire. Et puis fait qu'il y avait apporté un évangile où c'est que c'était juste pour emmener le côté positif, d'emmener où est-ce que c'est que les gens finalement trouvaient un épanouissement pour soi. Puis évidemment, il y en a beaucoup de choses qui peuvent nous des sujets d'épanouissement là, en suivant Christ. Là, on trouve un sens à sa vie. Mais le chrétien vit aussi dans un monde déchu. Là. Si on reprend un peu les concepts cosmologiques chrétiens, là, le chrétien vit dans un monde déchu et puis il vit les difficultés. Il est sujet aux mêmes difficultés, aux mêmes maladies que les gens qui nous entourent. Et il y a un travail de l'âme là, un peu qui se fait à travers de ce processus-là. En général, les Nord-Américains, les chrétiens en Occident, sont pas persécutés, sont pas sujets à des pressions politique de façon tellement exemplaire, mais on est sujet aux mêmes contraintes que le commun des mortels sous le vieillissement, la maladie, les aléas de l'économie, etc., etc. Et puis, en cheminant, bon, j'ai été confronté à des difficultés communes. Bon, comme au Québec, là, on a un taux de suicide assez élevé, là, et puis finalement, dans mon entourage, j'ai vu des gens se suicider. Et puis vivre des difficultés. Et puis toutes ces choses-là, ça remue, ça brasse. Mais moi, ce qui a pu me tenir dans les moments noirs, dans les moments difficiles, les moments de remise en question, c'est le concept que finalement, je suis un sauveur qui est ressuscité. Que Jésus-Christ soit non seulement mort, mais ressuscité. Mais là, j'ai un espoir au-delà de la mort. Parce que si on vit dans un monde qui est conditionné par le matériel, si le monde matériel, c'est tout ce qu'il a, et puis il n'y a rien d'autre, comme le discours dominant nous le dit, là, qu'il y a juste ça, mais à ce moment-là, effectivement, comme Camus, le philosophe existentialiste Albert Camus, il disait, le suicide, c'est la première question philosophique auquel il faut répondre. Si l'existence a un sens un sens, c'est la première, et puis tout le reste, l'esprit a différentes 25 facettes ou 6 ou tout ça, c'est des questions secondaires, mais il faut d'abord répondre à la question du sens de l'existence. Et puis, pour moi, justement, quand je suis personnellement confronté à ces réalités difficiles-là, j'ai mis ma confiance dans un sauveur qui est ressuscité, qui a confronté toutes les choses les plus noires, les plus difficiles que la vie peut lui lancer. Et puis, il en est sorti vainqueur, il en est sorti ressuscité. Et j'ai mis ma confiance en lui. Donc, peu importe l'état de l'Église, peu importe l'état du monde autour de moi, peu importe le reste, c'est lui en qui j'ai mis ma confiance, puis je vais le suivre. Et puis, je m'attache à lui. Et mais donc le chrétien, il regarde le monde qui l'entoure et il est capable d'expliquer la beauté. Il est capable d'expliquer la complexité, la diversité de l'organisme par la créativité d'un créateur, d'un agent intelligent. Mais aussi, il est capable d'expliquer l'aliénation, les difficultés, les guerres, les maladies, parce que les Écritures nous disent qu'on vit dans un cosmos qui est agonise, qui n'est pas dans son état normal. Un cosmos qui est, en québécois très vulgaire, fucké. Un univers là, qui ne marche pas comme il est supposé. Puis je pense qu'un des meilleurs exemples là, de ça, là, pour sur le plan là, émotif, là, c'est plus facile à comprendre. Jésus avait un copain qui s'appelait Lazare. Et puis, c'était un copain assez proche. Et puis, à un moment donné, Jésus était à l'extérieur. Et puis, il y avait quelqu'un, un messager, qui est venu porter un message. « Hey, ton copain Lazare, il va pas vraiment pas bien. Il faudrait que tu ailles le voir, là, parce que il a besoin de toi. » Jésus a dit, « Ah, j'ai compris le message. Et puis, ça va, on va aller le voir. » Mais Jésus retarde son départ. Il retarde, je ne sais pas, de quelques jours, je crois. Et puis, finalement, Jésus dit, « Bon, on va aller voir Lazare à ses disciples. » Et puis, les disciples pensent que tout va bien. Mais Jésus, il dit, « Non, ça ne va pas. » Il explique que Lazare est décédé. Puis là, les disciples sont tous surpris. Mais là, fait que, Jésus se rend à Béthanie, je crois. Là, c'est la ville où Lazare était résidait. Et puis, on arrive à Béthanie. Et puis là, les sœurs de Lazare arrivent et disent, « Ben là, Jésus, si seulement tu avais été là, ça, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Il serait encore avec nous autres. » Puis Jésus dit, « Amène-moi au tombeau. » Fait qu'ils conduisent Jésus au tombeau. Puis Jésus arrive au tombeau. Puis un des versets les plus courts dans la Bible, là, qui sont connus par, en tout cas, par les chrétiens qui sont habitués à lire les Écritures, c'est un verset avec deux mots. Ça dit « Jésus pleura ». Et il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans ça, parce que si les gens avaient arrivé à Jésus puis lui avaient dit Jésus aurait pu avoir une réaction très différente. Si on avait dit, par exemple, que Jésus, il savait que Lazare était pour mourir, il aurait pu juste dire, bon, ben, c'est l'ordre des choses, et puis c'est inévitable, tout le monde va mourir, puis qu'est-ce qu'il y a, pourquoi s'énerver pour ça? Puis ça aurait été complètement vrai, mais ça aurait été froid, ça aurait été dur, mais ça aurait été tout à fait vrai. Mais c'est pas comme ça que Jésus réagit. Puis on voit quelque chose, puis en fait, le grec, parce que le Nouveau Testament, l'original, est en grec. Puis apparemment, le mot grec là, qui est employé pour parler de pleurer est beaucoup plus riche, plus dur. Même le mot grec, apparemment, fait référence à quasiment le genre d'hennissement d'un cheval de bataille là, qui rugit, là, qui est comme furieux. Là. Il y a une émotion très, très, très forte qui est impliquée dans ce mot grec-là. Là. Et puis, on voit un genre de rejet là, comme qui est émotif aussi, là, que l'état là, de la mort, là, l'existence de la mort dans la création, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose qui était dans le plan de Dieu. C'est quelque chose, d'un certain sens, aberrant. Fait que on voit que, puis les Écritures nous enseignent à la fin des temps que Dieu, quand la création va être refaite, puis que la mort, toute la larme va être essuyée, puis la mort va disparaître. Puis fait que tous les aspects aliénants qui sont notre lot quotidien, le fait quand on va, par exemple, dans un salon mortuaire pour voir le corps d'un proche, ça, c'est un résultat de la chute. C'est un résultat là, de notre cosmos là, qui est détraqué. Mais c'est quelque chose qui, un jour, va être éliminé. Et puis, donc, on est capable, les chrétiens qui regardent, qui est cohérent, qui regarde la vision du monde qui nous vient de la Genèse, il est capable de voir l'Holocauste, il est capable de voir les massacres de Pol Pot, il est capable de voir toutes les choses les plus débiles de l'histoire, puis dire oui, la création agonise, la création est pas dans son état normal, et puis l'homme, dès qu'il s'éloigne de Dieu, bien, il est capable des choses les plus folles, les choses les plus débiles. Mais c'est ça, si on laisse Dieu agir dans nos cœurs, ben là, il y a de l'espoir aussi dans le présent. Il y a de l'espoir pour voir pour éloigner certains aspects de cette aliénation-là. Et puis l'espoir d'un jour de voir un monde où tout ça va être remisé. Et puis un peu comme l'artiste qui dit, bon, on recommence à zéro. On refait le ruban, on refait le tape.
Comment tu vois la question de la liberté de l'homme dans tout ça? Parce que, dans un sens, la science, la démarche de la science, selon la définition populaire, c'est d'offrir à l'homme un moyen de libération par la connaissance, ouais. Dans le fond. Okay, donc, il y a comme un acquiescement du concept de liberté. La liberté, c'est légitime. La science vous offre un moyen de vous libérer, c'est la connaissance. Bon. Mm-hmm. Puis dans le cadre de, même des fois, on parle de toutes les religions, d'un point de vue des sciences sociales, des fois en tout cas, comme étant justement du défaitisme, du fatalisme, etc., etc. Comment tu vois la question de la liberté de l'homme comme chrétien, comme anthropologue?
Oui, oui. Ça dépend un peu de la perspective cosmologique qu'on prend, là. Par exemple, sur le plan matérialiste, bon, il y avait au 19e siècle une volonté de s'éloigner des racines judéo-chrétiennes, de s'éloigner là, d'un armateur céleste là, qui se mêlait d'éthique puis nous disait qu'est-ce qu'il fallait penser, comment se comporter. Donc, il y avait une volonté là, de rechercher des systèmes de pensée qui pouvaient permettre de se couper de ces racines-là. Et aussi, de justifier, donc, sur le plan cosmologique, là, que, bon, on pouvait se construire un système éthique de façon de gérer sa sexualité, par exemple, et puis toutes sortes d'autres facteurs là, qui jouent dans ça. Mais il faut rechercher... La cohérence, parfois, là, c'est quelque chose de difficile d'établir. Et puis, dans cet éloignement-là des racines judéo-chrétiennes, bon, on a établi un discours dominant qui était matérialiste, mais ce discours-là matérialiste, finalement, si il faut toujours expliquer le comportement qu'on observe chez les humains, il faut établir des règles, il faut ça, on peut, peu importe le contexte cosmologique, le système de pensée, ces questions-là, dès qu'on a une société, ces questions-là se posent immédiatement. Et puis, il faut les fonder, il faut chercher à avoir une cohérence. Dans le contexte matérialiste, justement, la liberté, ben finalement, si l'homme est un résultat de la nature, il est déterminé par la nature. S'il est le produit de sa génétique, il est déterminé par la génétique. Comme il y a un courant de pensée qui s'est développé dans les années 80, surtout en milieu anglophone, la sociobiologie. Bon, les sociobiologistes disaient que tout comportement... observable et le résultat a une base génétique. Sauf que, bon, c'est vite dit, mais sauf que on s'est rendu compte assez vite que ça pouvait avoir des conséquences très totalitaires sur le plan politique. Là, par exemple, on pouvait dire bon, que ça justifiait, par exemple, l'esclavage, l'apartheid. Les différences entre les sexes ou l'interprétation traditionnelle des rapports entre les sexes, que les hommes sont plus forts. Ben, on pourrait, par exemple, ça peut justifier la logique de Sade, qui disait, le marquis de Sade, qui disait, étant donné que la nature a doté les hommes d'une plus grande puissance, une plus grande force sur le plan physique, ben, ça justifie que les hommes puissent exploiter les femmes sur le plan sexuel ils veulent parce que la nature a prévu de les rendre plus forts. Et puis, pourquoi que la nature aurait fait ça si c'était pas ça l'intention? Donc, ce qui est, finalement, ça a comme conséquence de poser comme fait ce qui existe est bien parce que la nature le fait ainsi. Mais là, on peut, il y a toutes sortes de comportements. Ça justifie aussi les comportements génocidaires d'Hitler. Les comportements des meurtriers en Syrie, etc., etc. On peut justifier n'importe quoi avec ce genre de logique-là, parce qu'il n'y a pas de raison de le restreindre à des choses qui nous semblent bénéfiques plutôt qu'à l'opposé.
Mais en même temps, ça nie l'existence de la liberté. C'est comme si ça disait que la liberté n'existe pas. C'est une illusion.
Parce que pour avoir une vision intégrée là, du comportement humain, il faut faire référence à une certaine cosmologie. Et puis la cosmologie nous dit que c'est la nature qui nous détermine ce que nous sommes. Et puis si la nature détermine ce que nous sommes, ça détermine aussi comment on doit se comporter. Que les fondements, là, parce que c'est justement notre constitution, la façon de construire notre identité, de constituer nos rapports entre individus, et puis sur le plan social plus grand, ça implique toujours une référence à la cosmologie.
Okay, puis dans le contexte chrétien.
Dans le contexte chrétien.
La même question de la liberté de l'homme.
Oui, puis ben là, dans le contexte chrétien, Dieu a créé l'homme. Évidemment, il l'a créé à son image, mais il l'a pas créé programmé comme un robot. Il l'a créé comme un il l'a créé comme un individu libre qui, avec des choix. Dès le jardin d'Éden, on l'a créé avec la possibilité de choisir entre l'arbre du bien et du mal. Ça fait que dans le contexte chrétien, la liberté est déjà posée dès le point de départ. La liberté et la responsabilité. Parce que le concept de punition, de chute, est incompréhensible sans le fait qu'il y ait une responsabilité. Ça devient complètement incohérent de punir quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. On punit, par exemple, quand les hommes gèrent les rapports avec les animaux, il y a peu de temps, il y a eu le cas d'une dame qui faisait du vélo, faisait du jogging en Alberta à Canmore avec quelques copains. Tout d'un coup, ils sont attaqués par un grizzly. Et puis le grizzly les a couru après, il y en a deux qui se sont enfuis, et la dame s'est réfugiée dans un arbre, mais pas tout à fait assez rapidement. Le grizzly l'a attrapé, il l'a bouffé, mais il l'a tué en tout cas. Et puis, bon, mais comment on gère ça? Est-ce qu'on gère cette relation-là avec un animal de la même façon qu'on gère les rapports entre les humains? Est-ce qu'on n'a pas mis l'ours en prison, on ne l'a pas fait un procès, on l'a tué. L'ours... ne fait qu'obéir à des instincts, et puis il n'a pas de responsabilité dans le sens qu'un humain peut en avoir. Il n'y a pas de responsabilité criminelle. Et puis on voit l'humain, fait que le système judiciaire est construit autour du concept que l'humain est responsable de ses actes, et là, une conception minimale de ce que c'est le bien et le mal. Sinon, le système judiciaire tomberait tout en morceaux. Là, et on pourrait, mais justement, il y a certains qui tentent d'introduire les droits des animaux puis dire bon, que les grands singes, les chimpanzés, certains orang-outans, certains singes, là, certains primates pourraient avoir une charte des libertés aussi qui s'appliquerait à eux. Ce qui impliquerait, est-ce que par exemple, un singe, un chimpanzé pourrait avoir une carte de crédit. Est-ce qu'il pourrait être enrôlé dans l'armée? Est-ce qu'il pourrait être mis en prison s'il ne paye pas ses comptes? Est-ce qu'il pourrait voter? Etc. On veut, évidemment, là, on tente de... L'interprétation, c'est de dire bon, on va tenter de réagir de façon plus humaine avec les organismes, puis on remet en question, évidemment, le statut unique de l'homme, dire que l'homme est différent de le reste de la création. Ça, c'est quelque chose d'intolérable, parce que là aussi, implicitement, c'est quelque chose qui fait partie de l'héritage judéo-chrétien. Et puis, sur le plan évolutionniste, c'est cohérent de dire que l'homme n'a pas de statut particulier. Sur le plan de l'évolution, l'homme fait partie de la nature, point final. Et il n'y a pas de raison d'en faire un être distinct, un être avec des droits et des privilèges particuliers. Mais le plus ironique dans ça, c'est que bien souvent, les gens qui sont les plus ardents défenseurs de l'évolution vont se tourner de bord et puis nous dire qu'on a une responsabilité envers le reste de la nature de diriger, de gérer ça de façon humaine et puis de voir à ce que le reste de la nature, que les espèces qui sont en danger ne disparaissent pas et puis etc. Tandis que l'évolution nous dit, ben c'est la survie des plus aptes et puis en fait que les plus forts vont survivre et puis les plus faibles vont disparaître. Et puis si on se comporte comme l'évolution nous le dit, que l'évolution s'est toujours déroulée depuis des milliards d'années, ben là, s'il y a certaines espèces qui sont dans notre environnement qui disparaissent, c'est comme ça, point final. Et puis, c'est totalement indifférent. L'évolution a vu disparaître des milliers d'espèces dans le passé, et pourquoi s'en soucier maintenant? Les mammouths, les trilobites, les dinosaures, et puis... Les grands paresseux et puis plein des milliers d'espèces sont disparues dans le passé. Pourquoi en faire un plat maintenant, aujourd'hui? Bon, c'est juste qu'on maintient une certaine notion implicite de l'héritage, que l'homme est distinct de la nature et qu'il a une responsabilité. C'est un héritage de la vision du monde judéo-chrétienne qui reste encore dans l'environnement. Et puis, on a de la misère à s'en débarrasser. C'est que ça a créé un monde tellement plus cruel et plus dur si on était vraiment cohérent avec les présupposés cosmologiques, matérialistes et évolutionnistes. Mais c'est difficile d'être cohérent.
OK, ben je pense qu'on va terminer ça là. Puis ce que je retiens, c'est, j'aime bien ta dernière phrase, c'est difficile d'être cohérent. Autant c'est difficile d'être un chrétien cohérent. Après t'avoir écouté, je pense qu'on s'aperçoit que c'est difficile d'être un matérialiste cohérent. Alors, j'ai plus de sympathie envers eux désormais. OK. En tout cas, je te remercie beaucoup, Paul, pour tout ce temps-là. On a pratiquement 3 heures d'enregistrer. Évidemment, on pourra pas passer ça en intégrale. Mais bref, puis en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on pourra sûrement se revoir. Et puis continuer ce débat-là. Je ne sais pas combien on peut en faire, mais bref, il y a encore bien du stock à discuter. Alors, merci encore.
C'est bien.